Morning Edition from NPR News.
Let me hear some people how see. Radio
Paris. France Inter. Le 18/20.
Et si on arrivait à se débarrasser du paludisme? On n'y est pas encore, mais le vaccin approuvé par l'OMS pour les enfants la semaine dernière est une avancée considérable. Il n'éradique pas la maladie, il ne supprime pas la prévention, mais permet au moins à tout un continent de se dire que cette maladie qui fait un demi-million de morts par an peut être vaincue. On y vient dans un tout petit instant. Être un homme qui refuse le féminisme, qui renvoie les femmes à la cuisine, qui les moque et qui les rabaisse, eh ben, c'est pas joli à voir, et c'est en Corée du Sud que je vous emmène dans le bruit du monde, chez les masculinistes outranciers qui doivent bien avoir peur de quelque chose. Le bruit du monde, la suite. Sous les radars, Sébastien Logénie a trouvé une statue de Christophe Colomb déboulonnée au Guatemala, la Somalie qui récupère une zone maritime et une future reine des Pays-Bas qui épousera qui elle voudra. 18h50, le cinéma en VO, c'est Corinne Pellissier avec un film danois signé Jonathan Tiers qui avait déjà fait sensation à Cannes. Et puis 18h55, le monde d'après de Claude Guibal dans la famille Kadhafi. Je voudrais le fils. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Ès. Un jour dans le monde.
Bonsoir, professeur Yaboum.
Bonsoir.
Vous êtes épidémiologiste, vous êtes à Yaoundé, au Cameroun. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur d'Épicentre Afrique, le centre de recherche de l'ONG Médecins Sans Frontières. Professeur Boum, le directeur général de l'OMS a parlé le 6 octobre dernier d'un moment historique, en même temps qu'il autorisait donc pour les enfants ce vaccin antipaludique. Est-ce que le mot historique est aussi celui que vous employeriez ?
Historique, oui, quelque part, parce que c'est la première fois qu'on ait un vaccin qui soit aussi efficace et qui puisse être déployé avec une telle ampleur contre le paludisme. Historique parce que effectivement, ça rappelle que en parallèle de la COVID, on continue de chercher sur le paludisme qui tue quand même près de 400 000 personnes par an, avec plus de 95% en Afrique. Donc pour ça, c'est quelque chose d'historique, effectivement.
Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on est trop optimiste quand on dit qu'on est sur la voie, c'est pas le cas pour l'instant, mais on est sur la voie et on pourra dire bientôt finalement que plus aucun enfant, notamment, ne mourra du paludisme en Afrique ?
Bah, je pense que là, par contre, on est optimiste quand on dit bientôt. Mmh. Parce qu'effectivement, ce vaccin qui arrive vient pour complémenter ce qui existait déjà, les différents traitements, les moustiquaires imprégnés, et c'est un atout en plus. Pour ce qui est de l'éradication, on n'y est pas encore.
Un atout en plus, ça veut dire que tous ces gestes dont vous parlez, les moustiquaires, les préventions, y compris les médicaments préventifs, ça veut dire qu'ils ne disparaissent pas, loin s'en faut, on continue à les utiliser.
Loin s'en faut, d'ailleurs, il y a une étude qui est sortie justement en disant que la combinaison entre la vaccination et les moustiquaires et les autres mesures que sont les médicaments à base d'artémicine, il y a aussi ce qu'on appelle les campagnes de chimoprophylaxie dans les pays où le paludisme est saisonnier. Donc la combinaison de tous ces outils peuvent nous permettre d'avancer encore plus vite. Mais le vaccin, on ne doit surtout pas le vendre comme une solution miracle.
C'est fou comme on a appris des choses quand même, y compris en termes de vocabulaire depuis le Covid. Qu'est-ce qu'on dit sur celui-ci qui protège des formes graves, qui protège des hospitalisations, qui protège comment en fait, et surtout à quel pourcentage ?
Alors là, on est plutôt sur 4-6 enfants sur 10 qui vont être protégés des hospitalisations, effectivement. Donc, on va aller parler d'une efficacité entre 60 et 70%. Maintenant, il faut voir en grandeur réelle, une fois que le vaccin est déployé en grandeur nature, comment est-ce qu'il va se manifester. Comme on a vu dernièrement que les vaccins pour la COVID sont efficaces à 90% sur des millions de personnes, il faudra aussi donner le temps au vaccin de pouvoir être déployé. Et là, on aura la véritable efficacité en fonction des pays, en fonction des âges, en fonction des genres, en fonction des saisons. Donc, il y a quand même encore des données à collecter pour avoir encore plus de confiance.
Et en fonction des moustiques ou pas, est-ce qu'il y a des formes de paludisme qui sont tellement différentes que, en fonction du moustique, le taux d'efficacité est différent ?
Alors, plutôt que le moustique même, on va sur le parasite.
Ouais,
on
le
Plasmodium falciparum, le malarié, le nolésier. Donc, on a plusieurs. Dans le plus grave, bien sûr, c'est le falciparum. Mais on a découvert, il y a 2 ans, une de ces espèces qu'on retrouvait de plus en plus dans les zones urbaines. Donc, il faudra voir également comment le vaccin se comporte par rapport à ces différentes espèces. Mais il est déjà important d'avoir un outil qui va pouvoir atténuer l'impact du parasite, le falciparum, qui est de loin le plus létal, le plus complexe.
Alors, il est britannique ce vaccin pour l'instant. Il s'appelle RTSS-AS021, Mosquirisk, ce qui me paraît déjà plus facile à prononcer. Il sort pas de nulle part, professeur Yaboum. Il est même autorisé depuis 3 ans dans certains pays, en test en tout cas au Ghana, au Malawi, au Kenya. Comment se fait-il qu'on ait un résultat maintenant? Et c'est vrai que depuis le début de cet entretien, on fait des comparaisons avec le Covid, qu'on le veuille ou non, et on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un lien entre le fait qu'on prend des décisions plus rapides de l'OMS, entre cette décision rapide et aussi ce qu'on a traversé en termes épidémiologiques?
Ben déjà, la première chose à dire, c'est que comparaison n'est pas raison. Le virus de la Covid a un nombre de gènes qui est largement inférieur aux 5000 gènes qu'on peut retrouver trouvé dans le parasite responsable du paludisme, déjà. Et deuxièmement, les essais cliniques pour pouvoir avoir des preuves redoutables, robustes, j'ai envie de dire, prennent du temps et donc des moyens. Et il est vrai que pour ce qui est de la Covid, des moyens ont été investis massivement par rapport à l'ampleur de cette maladie à l'échelle globale, par rapport au paludisme qui, effectivement, ne touche qu'une partie de la population, notamment la population africaine. Donc ça a pris beaucoup, beaucoup plus de temps. On est content qu'on puisse avoir un espoir et on espère surtout qu'il pourra avoir une interaction, un impact de la recherche sur le Covid pour le vaccin contre le paludisme, pour pouvoir l'améliorer encore plus.
Parce que la raison pour laquelle je vous pose la question, professeur Yaboum, je me demande juste s'il y a eu un moment, un sentiment en Afrique, et quand je dis en Afrique, au sens vraiment très large, sur le continent, le sentiment que si on trouvait si vite un vaccin contre le Covid, mais qu'on ramait depuis si longtemps sur le palud, c'est aussi parce que 400 000 Africains qui meurent par an, ça pèse beaucoup moins lourd.
Ben oui, certainement. Les efforts considérables qui sont mis sur la Covid sont bel et bien parce que le monde entier a été éprouvé par rapport à comme vous le dites, le paludisme qui reste quand même limité à un continent. Et ça rappelle encore la dépendance que l'Afrique a vis-à-vis de l'Occident, en termes de recherche, en termes de production de ces vaccins, de ces médicaments, et qu'il est plus que temps que nous, les Africains, puissions trouver des moyens pour renforcer cette recherche, pour trouver des solutions aux problèmes qui sont les nôtres.
Parce que là aussi, le parallèle avec le Covid, il se fait. Ce vaccin qui est accessible aux enfants et qui est si important, il va falloir le fabriquer en très grande quantité. Il va falloir surtout le distribuer. Il va falloir mener des campagnes de vaccination. Est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on sait que ce sera déjà le prochain obstacle, organiser la vaccination à l'échelle d'un continent?
Premièrement, il faut dire qu'on vaccine des enfants quasiment tous les jours en Afrique, contre la rougeole, contre plusieurs maladies. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait faire, même si c'est un défi logistique. Maintenant, ce qu'il va falloir faire dans le cadre de la recherche, c'est de pousser, comme on l'a fait au Niger avec Epicentre, sur le vaccin contre le rotavirus, où on a cherché à voir, à évaluer en tout cas, un vaccin qui est orable et qui résiste à la température. Parce que les chaînes de froid, c'est quelque chose de difficile dans certains pays, comme le Niger, où il fait très chaud. Donc, il va falloir continuer la recherche pour que le vaccin soit adapté au contexte africain. Mais jusqu'ici, c'est déjà une bonne nouvelle et puis il pourrait être intégré dans les campagnes de vaccination qui se font déjà dans plusieurs pays.
Il pourrait être intégré? Est-ce qu'on sait combien il coûte, par exemple? Donc du coup, est-ce qu'il peut vraiment être intégré dans toutes les campagnes de vaccination en même temps que la rougeole et le reste?
Là, il va falloir avoir une réflexion pour voir comment les programmes d'énergie de vaccination vont pouvoir l'implémenter, l'intégrer. Mais effectivement, l'intégration, à mon avis, est l'une des solutions. Maintenant, il faut quand même mettre en avant la difficulté de la saisonnalité du paludisme dans certains pays. Donc, dans ces environnements-là, on ne pourra pas le faire de la même manière, d'autant plus que la durée de protection n'est pas illimitée.
Ça veut dire
qu'il va falloir pour chaque pays.
Pardon, je vous en prie, je comprends ce que vous me dites. Chaque pays a une période de paludisme plus grave qu'une autre, et donc on peut pas faire une campagne qui serait au même moment et au même instant pour chacun, évidemment, des pays qui sont touchés par le palu.
Tout à fait. Et même quand on dit chaque pays, dans un même pays, peut avoir des régions où la saisonnalité du paludisme est différente parce que l'environnement également est différent. Donc il va falloir contextualiser au niveau des pays les réponses et voir dans quelle mesure il peut être intégré dans la réponse.
Est-ce qu'il est distribué dans les mêmes canaux que COVAX, par exemple? Et la raison pour laquelle je vous pose la question, c'est que COVAX est censé faire de la répartition de vaccins, notamment contre le Covid, de la répartition gratuite pour tous les pays qui ont moins les moyens que nous. Mais COVAX n'est pas franchement d'une efficacité redoutable en ce moment. Est-ce que ce sont les mêmes canaux? Est-ce que c'est utile d'utiliser ces mêmes canaux-là? Comment ça va se passer?
Ben pour le moment, il va falloir justement s'asseoir. Il va falloir s'asseoir, quand je dis s'asseoir, c'est l'OMS, c'est Africa CDC, c'est les pays, pour pouvoir définir les mécanismes d'acquisition, les mécanismes de déploiement et les mécanismes de production. Parce qu'une fois encore, si ces vaccins sont produits en Occident, la dépendance continue. Il va falloir profiter de la Covid également. Il y a des pays comme l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Sénégal qui se sont lancés dans la production de vaccins. Il faudra voir comment intégrer la production du vaccin paludis contre le palu également. Ça nous permettra d'avoir une plus grande flexibilité, mais aussi de réduire les coûts. Donc ça passera par la levée des brevets d'une part et par le transfert des technologies d'autre part. Donc on n'y est pas, mais je pense qu'on est dans la bonne direction et avec beaucoup de plaidoyer, on devrait pouvoir sortir de cette dépendance que subit la majeure partie des pays africains.
Professeur Yaboum, est-ce que ça marcherait mieux aussi si cette dépendance était moins importante pour ce qui est de l'acceptabilité? Est-ce qu'une campagne pour un vaccin contre le palu peut avoir certaines difficultés dans certaines familles pour emmener les enfants jusqu'à cette vaccination? Ou précisément là, on est dans un contexte qui est tellement différent de celui du Covid qu'on connaît là récemment que cette acceptabilité sera facile et très différente?
Oui, ben je pense que on ne pourrait pas comparer les deux en termes d'acceptabilité. Le vaccin contre le palu, il est attendu depuis longtemps. Premièrement, le nombre de morts, il est beaucoup plus important. Donc, je pense que l'acceptabilité sera plus importante. C'est, l'acceptabilité dépend de la perception du risque. Les personnes qui décident volontairement de se vacciner ont fait leur évaluation de risque et vont vers le vaccin.
Et ça dépend de la confiance dans le produit aussi. Et ça dépend de la confiance dans le produit, professeur Boum. Est-ce que d'emblée, en fait, quand on parle de cette maladie, il y a une vraie confiance dans le produit qui vient immédiatement? Parce qu'on sait bien, en effet, comme vous le dites, les conséquences du paludisme dans toute l'Afrique.
Si on est rationnel, non, parce que qui produit le vaccin contre le palu, c'est un vaccin britannique.
Exactement.
Hein. AstraZeneca, c'est aussi britannique.
Et oui, donc, c'est pour ça que je pose la question.
Donc, à ce niveau, ça ne va pas être le point.
Donc à ce niveau, c'est pas le point, mais cependant, parce que c'est le palus, il vous semble plus facile d'arriver à cette acceptabilité? Et tant mieux. Hein.
Oui, mais parce que le risque perçu est beaucoup plus important pour les populations. Le taux de mortalité et le nombre de morts de paludisme en Afrique reste quand même relativement, de Covid reste relativement bas. Donc quand vous arrivez dans certains villages, il n'y a pas eu de décès de palu ou de Covid. Et donc, il n'y a pas le risque d'aller prendre un vaccin entre guillemets pour rien. Et pas comparable à celui de vacciner les enfants qu'on sait être vulnérables et qu'on a vu mourir. Donc il y a vraiment cette évaluation du bénéfice-risque que les populations le font sans avoir besoin d'être épidémiologiste. C'est véritablement une évaluation très pragmatique.
Une dernière question, Yaboum. Qu'est-ce qu'on dit pour les adultes? Parce qu'effectivement, le taux de mortalité le plus important, c'est vraiment pour les enfants. La grande fragilité face au paludisme, c'est définitivement les enfants. Mais est-ce qu'on se dit qu'on est sur ce chemin-là et qu'à terme, c'est quelque chose qui sera utilisable pour les adultes également, ou est-ce que ce ne sera pas utile?
Il le faudra que ce soit utile, parce que les adultes également meurent de palu. C'est vrai que la majorité, ce sont les enfants de moins de 5 ans, mais on voit bien des enfants plus grands et voire les adultes qui en décèdent. Donc on est sur la bonne voie, il va falloir intensifier la recherche pour avoir un vaccin qui soit encore plus efficace. Et je reviens sur le défi logistique. Mm-hmm. Il faudra qu'on puisse avoir un vaccin qui soit oral et qui puisse résister à la température, comme on l'a fait avec le rotavirus. Mm-hmm. Donc c'est possible, c'est compliqué, mais je pense qu'on devrait pouvoir y arriver.
On va rester
pas demain, mais un peu plus tard.
On va rester sur cette note optimiste. Yaboum, merci beaucoup. En revanche, tiens, est-ce que ça nous concernerait, nous aussi, potentiellement, même si c'est à long terme, pour nous qui voyageons, par exemple, dans ces pays-là, ou est-ce que, pour le coup, là, pour ce qui nous concerne, on reste au traitement habituel sans passer par la case vaccin ?
Ben, pour le moment, vu qu'on cible davantage les enfants, je veux dire, quand je regarde le Cameroun, par exemple, la population expatriée française est importante. Donc, ça veut dire que tous ces enfants qui viennent vont devoir se faire vacciner également. Et pour les adultes, au fur et à mesure qu'on aura une meilleure efficacité dans cette population, les voyageurs, les vacanciers devront, à mon avis, prendre ce vaccin. Pour éviter des mauvaises surprises pendant les vacances.
On a compris qu'il ne fallait pas être exagérément optimiste, mais qu'en tout cas, la voie était bonne. Professeur Yaboum, merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup de votre présence dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Synthèse. Sur France Inter.
La suite ce soir, c'est Le Bruit du Monde et c'est un reportage incroyable sur les masculinistes sud-coréens. Vous verrez qu'à côté, le pire macho de nos pays européens vit au pays de Candy. Le Bruit du Monde, la suite, c'est sous les radars, Sébastien Logénie.
Et quand les populations indigènes déboulonnent les statues de Christophe Colomb en Amérique.
Le cinéma en VO. Bonsoir à vous, Corinne Pellissier.
Bonsoir, il a fait sensation au dernier festival de Cannes, notamment grâce à sa comédienne qui a décroché le prix d'interprétation. C'est le film Julie en 12 chapitres.
Le monde d'après, Claude Guibal, bonsoir.
Bonsoir, si je vous dis Kadhafi, Fabienne, vous me dites, c'est fini ? Eh bien non, la Kadhafi nostalgie s'invite dans la présidentielle en Libye, mais plus avec Muammar, et pour cause, il est mort, mais avec son fils, Saif al-Islam.
Et tout ça donc avant 19h, le tour de la planète n'est pas fini, il passe par l'Irlande et le Bangladesh tout à la fois. Voici Joy Crooks, When You Were Mine, sur France Inter.
In the summer of 16, was it love or nicotine that made us mellow on the 31st? It was penny paradise, just a pretty little lie, and it hit me when I saw you. Hand in hand, cold harbor night, never take it easy on the PDA. I don't miss you, at least not that way, but someone better want me like that someday.
Cancer is a very sort of mental disease. Sort of mental disease. Because that's crazy.
Là, là, le bruit du monde est en Corée du Sud ce soir et cette voix que vous entendez, c'est celle d'un jeune Sud-Coréen ouvertement misogyne. Vous verrez dans un instant ce qu'il vient de dire. Il n'est pas tout seul, hein, il fait partie de près de 60% de jeunes gens dans le pays à se déclarer fortement opposés au féminisme. Le féminisme, évidemment, gagne du terrain en Corée comme ailleurs, mais il affronte aussi une vague d'opposition en pleine expansion sur Internet, dans les rues, dans les sphères politiques aussi, économiques. Les paroles des masculinistes sont bien dans le paysage et le reste, c'est Nicolas Roca qui raconte.
Le féminisme est une maladie mentale, répète en boucle une trentaine d'hommes à l'égard des militantes venues manifester pour le droit à l'avortement. Cette scène se déroule l'hiver dernier à Séoul alors que l'IVG n'est pas encore décriminalisé. Les deux camps se font face, mais les hommes qui organisent la contre-manifestation ne rejettent pas que l'avortement.
Les femmes ne remplissent pas leurs devoirs, mais demandent des droits. En plus de tout cela, les féministes détestent les hommes, et c'est pour ça que je pense que le féminisme est un cancer.
Mais pourquoi est-ce que vous criez? Pourquoi est-ce que vous protestez de manière aussi violente?
Ce sont les femmes qui commencent le combat, qui ont souhaité commencer cette guerre. Elles ont dit qu'elles appelaient à poignarder leur père. C'est elles qui ont débuté avec ce discours de haine. Je ne déteste pas toutes les femmes, évidemment. Je déteste les féministes radicales.
Ce jeune homme aux lunettes carrées regarde avec admiration les leaders du mouvement antiféministe. Deux trentenaires, des youtubeurs qui lancent des insultes depuis le toit d'un bus. L'un d'entre eux, Wang Jia, ou le prince en coréen, est vêtu d'une longue perruque blonde sur la tête et d'une petite jupe rouge.
Pourquoi je suis habillée en femme? Parce que je veux briser les théories folles des féministes. Elles critiquent lorsqu'une belle femme, une célébrité, s'habille de manière légère en disant que c'est de la sexualisation du corps de la femme. Mais quand c'est une femme laide, elle trouve ça génial. Elle trouve ça super cool. Moi, je pense que c'est de la merde. Alors, je m'habille en femme et je suis jolie, quand même plus jolie que les féministes. Je suis là, je me sacrifie pour avoir plus d'attention de la part des médias. Et nous allons les contre-attaquer à plus grande échelle. Vous allez voir. Merci à vous.
Quelques mois plus tard, la promesse a été tenue. Ce youtubeur rassemble près de 400 000 abonnés sur sa chaîne intitulée « Solidarité masculine ». Dans ses vidéos, il menace les féministes pour gagner en notoriété.
Bonjour, j'ai entendu qu'il y aurait des putains de féministes là-bas. Tu connais les féministes? Non? Ce sont des misandres. Elles détestent les hommes. Ce n'est pas grave si tu ne les connais pas parce que je vais toutes les tuer.
Sa cible principale se nomme Kim Joo-hee. Cette infirmière militante féministe a organisé un mouvement intitulé Haeil, la vague, pour faire face à la déferlante de haine qu'elle et ses amis doivent affronter.
Mon numéro de téléphone a été publié en ligne et je reçois des appels constamment. Sur les 4 derniers jours, on parle d'une vingtaine d'appels menaçants. Les gens disent en ligne, en voyant sa tête, je comprends parfaitement pourquoi est-ce qu'elle est féministe. Je suis harcelée en ligne sur tous mes réseaux sociaux.
Différentes polémiques ont révélé l'influence des antiféministes dans la société. Par exemple, des internautes sont parvenus à faire retirer des campagnes de publicité qu'ils jugeaient anti-hommes. En cause, un dessin d'une main qui serait, selon eux, une moquerie envers la taille du pénis des hommes sud-coréens.
Les communautés d'hommes sur Internet partagent leur haine, donc il suffit que l'un d'entre eux juge une campagne publicitaire trop féministe pour que des dizaines de milliers de personnes se plaignent. Dans une université, par exemple, il devait y avoir un cours sur les violences sexuelles. L'un des élèves est allé le raconter à sa communauté. Les critiques se sont mises à pleuvoir, donc l'université a annulé le cours. C'est ainsi qu'ils ont transformé certains mots liés au féminisme pour qu'ils soient perçus uniquement de manière négative.
S'il est compliqué de trouver toutes les causes à cette haine du féminisme, il existe plusieurs explications, parmi lesquelles le service militaire obligatoire uniquement pour les hommes. Ji Sun-yeon est professeur de philosophie à l'université Sejong et offre des pistes de réflexion.
Pour le moment, les jeunes en Corée, ils se sentent incompétents, incapables de monter en haut de la société. Et puis, ils pensent qu'ils sont voués à célibataire involontairement et à rester dans une situation instable du travail, et sans avenir, sans repère. Puis, ils se sentent menacés ou affaiblis par rapport au statut masculin qu'ils avaient avant.
Une sensation de perte de privilèges qui est loin de se ressentir dans les faits. En 2020, l'écart de salaire entre hommes et femmes était de 32% en Corée du Sud, ce qui en faisait le pays le moins bien classé de l'OCDE dans ce domaine.
Par notre ami réalisateur Tristan Gratalon. Vraiment, allez, c'était Nicolas Roca pour le reportage à Séoul. Merci beaucoup. Le bruit du monde, la suite, c'est Sous les radars et c'est Sébastien Logeni. Sébastien, nous sommes dans les rues de Guatemala City, donc capitale du Guatemala, où un millier de personnes a tenté de jeter à terre une statue de Christophe Colomb.
Une sculpture de bronze qui trône sur l'avenue principale de la capitale guatémaltèque, une statue qui célèbre la conquête de l'Amérique par le célèbre explorateur génois, sauf que depuis des années, cette figure occidentale est très critiquée partout en Amérique. Christophe Colomb, devenu l'incarnation de la colonisation, de l'exploitation des peuples autochtones. Ainsi, depuis plusieurs années, la journée du 12 octobre, journée de l'hispanité, commémorant la découverte de par Christophe Colomb de l'Amérique en 1992, eh bien cette date est devenue...
1492.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
1992.
Ah mais oui, effectivement, c'est un peu plus ancien. Voilà, cette date donc, de 1492 est devenue un moment de contestation. Les indigènes l'appellent désormais le jour de la dignité et de la résistance. Et ce débat n'a pas lieu qu'au Guatemala, mais dans plusieurs pays de la région, notamment au Mexique, où Christophe Colomb a encore fait la une des journaux ces derniers jours. On entend là un chercheur mexicain qui rappelle que les statues de Colomb ont commencé à être remises en question précisément pour la même raison qu'elles ont été construites, parce qu'elles étaient des symboles de la domination occidentale, de la domination catholique, d'une idée de l'histoire racialisée dans laquelle il était dit que l'Amérique devait être gouvernée par des hommes blancs. Voilà, on le disait, c'est au Mexique que le débat autour de Christophe Colomb a pris le plus d'ampleur. Le gouvernement de gauche d'Andrés Manuel López Obrador exige régulièrement de l'Espagne et du Vatican des excuses pour les atrocités commises contre les autochtones. Dernier geste en date, la statue de Christophe Colomb à Mexico, régulièrement vandalisée, taguée, déboulonnée l'an dernier, eh bien, elle sera bientôt définitivement remplacée par la statue d'une femme Olmec, un peuple précolombien en hommage à 5 siècles de résistance indigène.
Allez, direction la Corne de l'Afrique où la Somalie et le Kenya s'écharpent autour d'une frontière.
Les deux pays s'opposent en effet depuis des années autour d'un dossier très sensible, le tracé de leur frontière maritime dans l'océan Indien. L'enjeu est de taille car elle concerne une zone de 100 000 km² très riche en poissons et en potentiel hydrocarbures, gaz, pétrole. La Somalie plaide pour que le tracé remonte vers le sud-est quand le Kenya se bat pour un tracé plus horizontal. Les deux pays n'ont jamais réussi à se mettre d'accord et l'affaire empoisonne régulièrement leurs relations diplomatiques au point que la Somalie a fini par saisir la Cour internationale de justice de La Haye, la plus haute juridiction de l'ONU, censée régler les différends entre États. L'audience avait lieu hier et les magistrats ont donné raison à la Somalie. Le Kenya a immédiatement rejeté la décision par la voix de son président lui-même. Le président kenyan Uhuru Kenyatta, pour qui cette décision est un jeu de somme nulle qui mettra à mal les relations entre les deux pays. Elle annulera également les acquis sociaux, politiques, économiques et aggravera potentiellement la situation en matière de paix et de sécurité dans la fragile région de la Corne de l'Afrique. Les décisions de la Cour de La Haye s'imposent normalement aux deux parties, sont sans appel, mais la Cour ne dispose d'aucun moyen contraignant pour les faire appliquer. Le gros problème, c'est que le Kenya a déjà signé des contrats avec des compagnies pétrolières pour exploiter d'éventuels gisements, notamment avec la compagnie italienne Eni, qui travaille donc dans une zone qui appartient désormais à la Somalie. Sacré casse-tête en perspective.
Allez, on termine aux Pays-Bas où la future reine aura bientôt 18 ans et cela pose quelques questions.
Oui, pour ceux qui ne suivent pas l'actualité des cônes des têtes couronnées, décidément, sachez que l'héritière du trône en Hollande s'appelle Amalia, c'est la fille du roi actuel Willem-Alexander.
On entend
là le roi Guillaume-Alexandre. Alexandre, c'est un jeune roi. 60 ans, même pas 60 ans. Sa succession n'est donc pas encore d'actualité. Toutefois, sa fille aînée Amalia va devenir majeure dans moins de 2 mois. Et ce passage à l'âge adulte agite grandement le royaume néerlandais. Avec cette question très contemporaine, Amalia pourrait-elle épouser une personne du même sexe? Question purement théorique. On ne connaît pas la vie privée de cette jeune princesse. Eh bien, ce n'est pas grave. Pour couper court à toute spéculation, Mark Rutte, le premier ministre des Pays-Bas, a tranché: le mariage entre personnes du même sexe est possible entre citoyens. Et donc, pas de raison que ce ne soit pas aussi le cas pour la future reine, si elle le souhaite. Reste une inconnue, Fabienne, quel régime de succession pour les enfants de cette éventuelle union homosexuelle dans le cas d'un don de sperme affreusement compliqué, a répondu Mark Rutte. Bref, on verra plus tard.
Quelle fatigue, hein, d'être princesse, dites-moi.
Et allez, présentateur d'une telle chronique.
Comme vous dites.
Dis.
Merci beaucoup. Allez vous reposer, Sébastien, je vous en supplie. Vous partez avec Chet Baker, Alone Together, sur France Inter.
Alone together, above the crowd, beyond the world, we're not too proud to cling together. We're strong as long as we're together. Alone together, the blinding rain, the starless night, we're not in vain. We're together, and what is there to fear together? Our love is as deep as the sea. Our love is as great as a love can be. The great unknown, if we're alone together.
Sur France Inter. Corinne Pellissier, hélas, c'est mercredi, c'est cinéma.
France Inter. Un jour dans le monde.
So, let me start.
I have the floor.
Julia. Du kan ikke kjenne alle hosens. Han kjæreste, som veldig glad.
Okay.
Ha det.
Ha det.
Il fait partie des cinéastes scandinaves, Corinne, les plus en vue de ces dernières années. Il s'appelle Joachim Trier. Je l'ai appelé Jonathan dans les titres, d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Son nouveau film s'appelle Julie en 12 chapitres. Sensation feel good du dernier festival de Cannes. Un prix d'interprétation aussi. Beaucoup de légèreté. Un film surtout qui saisit l'esprit d'une époque, Corinne.
Voilà, c'est à la fois une tornade et un rayon de soleil. Une envie folle de liberté, de besoin en même temps, de se conformer à ce que la société attend de nous. Voilà ce que nous raconte ce film Julie en 12 chapitres, une tranche de vie, le parcours de Julie, la trentaine à Oslo, une jeune femme pétillante, pleine de rêves, mais aussi pleine de doutes sur son rapport au travail, au désir, à la maternité ou en même temps à l'environnement, avec en fond cette petite musique jazzy comme dans un film de Woody Allen.
Du, den här bagen ska jag ta den på sovrummet.
Ja, tack.
Alors c'est un film tout léger en apparence, très lumineux, à l'image de sa comédienne Renate Rensveu, absolument éblouissante et dont le parcours nous permet d'aborder en plusieurs chapitres tous les grands sujets de société à l'ère post-MeToo, la place des femmes, la justice sociale ou les mouvements de lutte contre la discrimination, les inégalités. Avoir 30 ans en gros en 2020 à travers ce personnage à la fois fort et vulnérable, tiraillé entre deux amours, deux couleurs de cheveux et deux, trois, quatre, cinq ou six métiers en perspective, une sorte de Bridget Jones pour les millennials. On rit beaucoup, on pleure un peu aussi. Joachim Trier fait partie de ces cinéastes qui parviennent avec une grande subtilité, dans un esprit très nouvelle vague, à saisir ici quelque chose de notre époque, tout en contraste et en même temps très juste.
La société actuelle nous pousse, je trouve, à adopter deux positions presque contradictoires. À la fois, le besoin impérieux de nous définir et de trouver les mots justes pour dire voilà qui je suis, et en même temps, le désir absolu et plus fort que jamais de se sentir libre. On n'a jamais eu autant le choix, mais on ne s'est jamais senti non plus autant tiraillé. Car en fait, les opinions n'ont jamais été aussi tranchées. Prenez par exemple le personnage d'Axel dans le film. Il a dessiné pendant des années des personnages de BD underground que tout le monde trouvait super cool. Dans les années 90, il était vanté pour son humour, sa liberté, son côté cash. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Ses vannes et son humour transgressif sont devenus l'incarnation du mauvais goût, car l'époque a changé. Il n'est plus juste un auteur, il est devenu aussi un objet de consommation, et c'est ce paradoxe que je voulais explorer. Montrer à quel point l'être humain est vulnérable. On fait tous de notre mieux, on se débat, parfois on échoue, on tombe, on se relève, sans jamais savoir au final à quel moment c'est bien ou c'est très mal, que ce soit en amour ou dans nos vies professionnelles. J'ai toujours été un grand progressiste, j'ai été élevé comme ça. Mais pour moi, il est capital aujourd'hui de conserver un espace de liberté, un endroit pour respirer, avoir le droit d'être vulnérable, de se tromper et de ne pas être puni pour ça. Je voulais vraiment montrer ici l'ironie de notre époque.
Et alors en même temps, il n'en est pas à son coup d'essai, Joachim Trier, Corinne, puisque c'est l'un des meilleurs portraitistes en fait de la jeunesse norvégienne aujourd'hui.
Oui, ceux qui ont vu ses précédents films, Nouvelle Donne ou Oslo 31 août, auront remarqué ce talent très particulier pour dépeindre les états d'âme d'une jeunesse souvent en manque de repères, qui ne parvient jamais à se fixer. Ce qui est très amusant d'ailleurs, c'est le titre du film Julie en VO, The Worst Person in the World, la personne la plus nulle du monde, qui traduit un peu comme dans la chanson de Beck, ce sentiment de loose, d'inaccompli, devenu en 15 ans la marque de fabrique du cinéma de Joachim Trier. 5 films et déjà une grande maîtrise dans la mise en scène des sentiments de mal-être et de mélancolie. Et vous savez, de mélancolie. et ce qui est fou dans ce film, c'est qu'on ressort de Julie complètement heureux et revigoré.
Voilà, presque amoureux même, vous dites. L'actrice s'appelle Renate Rensveu. Voilà.
Formidable, absolument formidable.
Palme au festival, palme d'or au festival.
Non. Récompense, prix d'interprétation.
Prix d'interprétation, c'est ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Au festival de Cannes, Julie en 12 chapitres, estampillé, recommandation Corinne Pellissier et film inter.
Fabienne Synthèse, le 18-20.
Le monde d'après, signé ce soir Claude Guibal. Claude, un monde d'après, très monde d'avant au fond, car nous voici en Libye, où théoriquement des élections présidentielles et législatives doivent avoir lieu à la fin du mois de décembre. Des élections sur lesquelles plane une ombre persistante, c'est celle de Kadhafi et de son clan.
Oui Fabienne, difficile invisiblement pour la Libye de tourner la page des années Kadhafi. Forcément, 42 ans de pouvoir, ça laisse des traces, d'autant que ces 10 années écoulées depuis la mort de Kadhafi n'ont été qu'un immense fauda, comme on dit en arabe, un chaos total. 10 ans de lutte entre milices et troupes du général Haftar à l'est contre celles du gouvernement d'Union nationale à l'ouest, un champ de bataille kafkaïen où on retrouve pêle-mêle mercenaires russes, militaires turcs, djihadistes implantés dans les zones pétrolières, tribus rebelles, tout ça sous les yeux de tous les services de renseignement du monde. Alors oui, c'est le chaos pour de nombreux Libyens qui n'en peuvent plus et se prennent parfois de nostalgie pour les années Kadhafi qui, malgré leur cruauté, sont pour eux évocatrices d'une certaine forme de stabilité.
Donc on dit quoi? Retour en grâce, c'est ça?
Alors retour en grâce, peut-être pas, mais en tout cas, des signaux d'apaisement visibles à l'approche de ces élections. On semble jouer la carte de la réconciliation nationale. En ce début d'année, c'est un homme d'affaires autrefois proche de Kadhafi qui a été nommé au poste de Premier ministre. Il y a quelques jours, libération de membres de la garde rapprochée de l'ancien dictateur, son ancien chef des renseignements et surtout son fils Saadi. Saadi, c'était le footballeur jet-setter qui, faute d'avoir réussi sa carrière sportive, était revenu près de son père diriger une unité militaire tout juste libérée. Il part s'installer en Turquie. Un petit arrangement en douceur.
Et qu'est-ce qui reste du reste du clan alors?
Alors, sur le reste du clan, 3 des 7 fils sont morts pendant la Révolution. L'aîné Mohamed et la fille chérie ont trouvé refuge à Oman. Hannibal, le playboy, homme d'affaires, est lui emprisonné au Liban. Je viens de vous donner des nouvelles de Saadi. Mm-hmm. Donc, reste Sif al-Islam, celui vers lequel tous les regards se tournent. Sif al-Islam, c'était le dauphin, celui que l'on avait vu négocier la libération des infirmières bulgares en 2007 avec Nicolas Sarkozy, celui qui avait annoncé la signature de l'accord d'armement avec la France dans la foulée. Après la mort de son père, il avait été capturé par des milices rebelles à Zentane. Ces milices avaient refusé de le livrer à la Cour pénale internationale qui le poursuivait pour crime contre l'humanité. Puis en 2017, coup de théâtre, on apprend sa libération par les milices, mais il disparaît dans la nature le jour même. Et tout le monde depuis se demandait où il était et quelle ficelle il était en train de tirer.
Et donc cet été, coucou le revoilà, si je puis dire, qui réapparaît dans une interview au New York Times.
Dans laquelle on apprend qu'il vit toujours à Zentane, auprès de ses fameuses milices qui le gardent à l'œil tout en lui ayant rendu sa liberté. Et qu'est-ce qu'il dit? Ben qu'il est temps qu'il revienne aider les Libyens, qu'il est prêt pour un destin présidentiel. De fait, ces milices rebelles, visiblement déçus par les gouvernements qui se sont succédés, semblent l'avoir gardé sous la main comme joker à utiliser un jour. Pendant ce temps-là, eh bien, les nostalgiques de l'ancien régime préparent le terrain sur leur chaîne satellitaire. Ils matraquent ces jours-ci des documentaires sur les heures glorieuses de l'économie libyenne sous Kadhafi. Le discours, eh bien, il porte auprès d'une population épuisée par les pénuries, la crise économique, l'insécurité, une population qui est vraiment fatiguée de voir les autres candidats multiplier les coups bas dans la course à la présidentielle. Les Libyens sont épuisés par 10 ans de guerre fratricide, ils n'ont plus aucune confiance en qui que ce soit. Et dans ce contexte, eh bien, le retour de Sif al-Islam en sauveur, en homme providentiel, semblerait commencer à recevoir un écho favorable.
Claude Guibal et Le Monde d'après, merci beaucoup. Claude, le 18-20 referme sa première heure, la deuxième commence maintenant. Dans un instant, c'est le journal d'Hélène Philly et puis le téléphone sonne. Merci de passer cette soirée avec nous, ne changez rien et à tout de suite.